Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bihan, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 15 janvier 2021. Bonjour ou bienvenue. La police fédérale américaine, FBI, a arrêté plus de 100 personnes en lien avec le coup de force du 6 janvier contre le Capitole à Washington et surveille actuellement des individus qui pourraient menacer la sécurité lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier, a déclaré jeudi le chef de la police fédérale, Christopher Wray. 5 personnes ont trouvé la mort mercredi dernier lors de l'envahissement du siège du Congrès par les partisans du président Donald Trump dans le but de faire annuler le résultat de l'élection présidentielle américaine remportée par Joe Biden. Le président élu a dévoilé jeudi un nouveau plan de relance d'urgence de 1900 milliards de dollars censé sortir les États-Unis de leur pire crise depuis les années 1930 et qui sera suivi dans les prochaines semaines d'un plan d'investissement pour relancer l'économie. En appelant le Congrès à l'adopter rapidement, Joe Biden a détaillé son vaste plan de relance au menu de nouveaux chèques directs de 1 400 $ par personne aux familles, un salaire minimum doublé à 15 $ de l'heure, la prolongation des aides au chômage ou encore des aides pour les États et collectivités locales. L'ancien vice-président de Barack Obama va détailler ce vendredi le volet pour accélérer la vaccination massive des Américains contre le COVID-19 dans un pays qui continue de battre des records de décès quotidiens de la pandémie et pourrait franchir d'ici son entrée en fonction la barre des 400 000 morts. Les gouvernements africains doivent prendre en urgence des mesures pour être prêts à fournir aux populations les vaccins contre le coronavirus, a déclaré jeudi le Centre de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC, l'agence spécialisée de l'Union africaine. La directrice pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le docteur Mashidiso Moeti, s'est dit de son côté préoccupé par la découverte de plusieurs variantes du virus sur le continent lors d'un point de presse virtuel qui se tenait également jeudi. Le Nigeria, pays le plus peuplé du continent africain, a annoncé jeudi qu'il recevrait au mois de mars 10 millions de doses de vaccins contre le COVID-19. Le gouvernement nigérian n'a pas précisé quelle entreprise fournirait ces doses, ni si elles étaient celles financées par le dispositif COVAX de l'Organisation mondiale de la santé OMS et de partenaires privés pour un accès équitable aux vaccins ou par l'Union africaine. Le Nigeria, qui compte environ 200 millions d'habitants, a officiellement enregistré quelque 104 000 cas de coronavirus, dont 1 382 décès. Le Soudan a interdit jeudi le survol de la région d'El Fachaga après avoir accusé la veille un avion militaire éthiopien d'avoir franchi ses frontières, évoquant une escalade dangereuse dans le litige frontalier entre les deux pays. Le Soudan avait mis en garde mercredi contre la répétition de ce que les autorités de Khartoum considèrent comme des hostilités. Le Soudan et l'Éthiopie se disputent cette région frontalière de quelque 250 km² de terres agricoles fertiles et convoitées par les agriculteurs des deux pays d'Afrique de l'Est. Crise en Libye, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, prévoit de nommer l'expérimenté diplomate slovaque Jan Kubis comme représentant spécial de l'ONU pour la Libye. C'est ce que montre une lettre adressée au Conseil de sécurité que l'agence Reuters a pu consulter jeudi. Si aucun des 15 membres du Conseil de sécurité n'émet d'objection à cette nomination d'ici vendredi soir, ce soir donc, l'ancien ministre slovaque des Affaires étrangères et actuel coordinateur spécial de l'ONU pour le Liban prendra la succession formelle de Hassan Salamé près d'un an après la démission de celui-ci. Hassan Salamé a annoncé en mars dernier sa démission pour des raisons de santé liées au stress. Celle qui était son adjointe, Stephanie Williams, a su depuis l'intérim et a encadré à l'automne dernier des discussions ayant abouti à un cessez-le-feu. VOA Afrique Info, nous sommes le vendredi 15 janvier 2021. En ligne de mire dans ce journal, Congo-Brazzaville, c'est désormais officiel. La présidentielle aura lieu le 21 mars prochain. Leila Zerougui quitte la tête de la mission de l'ONU en RDC. Elle est remplacée par la Guinéenne Bitou Keïta. Scrutin présidentiel hier en Ouganda, sans accès à Internet et aux réseaux sociaux suspendus depuis mardi. Jean-Roger Bihan, on revient sur toutes ces nouvelles dans un instant. Nous émettons de Washington. La suite de nos informations en ce vendredi 15 janvier 2021. Au Congo-Brazzaville, les électeurs sont convoqués le 21 mars pour l'élection présidentielle. Denis Sassou Nguesso, qui cumule 36 ans de pouvoir, a été investi par son parti pour briguer un nouveau mandat. Abdourahmane Dia.
Le décret présidentiel annonçant la date du scrutin a été lu à la télévision nationale. Il précise que les forces de défense et de sécurité voteront le 17 mars, permettant à l'armée et à la police de se consacrer à la sécurisation du vote de la population le jour. C'est la première fois que les électeurs se rendront aux urnes en deux étapes depuis la première élection présidentielle multipartiste en 1992. Une opération spéciale de révision des listes électorales se déroule timidement depuis le 7 janvier sur l'ensemble du pays. Elle est boudée par l'opposition qui souhaitait que le corps électoral soit plutôt tiré du recensement général de la population et de l'habitat qui a démarré en 2020. La date de sa clôture n'est pas encore connue. Le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, vient d'être investi candidat par le Parti congolais du travail et 17 formations de la majorité présidentielle. Il ne s'est toujours pas prononcé lui-même. Il aura entre autres challenger Mathias Zon, 73 ans, un ancien ministre des Finances, ou encore Guy Brice Parfait-Kolela, 60 ans, qui s'est classé deuxième à la présidentielle de 2016.
La MONUSCO, la mission onusienne en République démocratique du Congo, change de patronne. La Guinéenne Bintou Keïta va remplacer Leïla Zerougui dès le mois prochain. Claire Morin-Gibou.
Avec 15 000 casques bleus et un budget annuel de plus d'un milliard de dollars, la MONUSCO est l'une des plus importantes opérations de maintien de la paix des Nations Unies. La Guinéenne Bintou Keïta va remplacer l'Algérienne Leïla Zerougui. Elle était jusqu'à présent sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique après avoir été adjointe aux opérations de maintien de la paix en 2017. Elle a rejoint les Nations Unies en 1989 et a notamment occupé des fonctions à l'UNICEF et au Darfour en 2015. Le mandat de la MONUSCO a été renouvelé en décembre par le Conseil de sécurité de l'ONU pour un an, avec une amorce prudente de désengagement étalé sur plusieurs années, sans échéance de fin établie.
Les Ougandais ont voté hier dans un calme apparent pour départager le député chanteur Bobi Wine et le président sortant Yoweri Museveni, qui brigue après 35 ans de pouvoir un sixième mandat. Une élection tenue au terme d'une campagne électorale particulièrement violente. Les résultats seront connus dans les 48 heures selon la commission électorale. Hier soir, Jacques Aristide.
Le scrutin sous haute surveillance s'est déroulé sans accès ou presque à Internet, largement perturbé. Les réseaux sociaux et services de messagerie sont suspendus depuis mardi. Dans la capitale Kampala, certaines urnes ont immédiatement été ouvertes pour faire un premier décompte devant la foule en signe de transparence. Les électeurs, qui faisaient encore la queue à l'heure de la fermeture, ont été autorisés à voter, d'après le président de la commission électorale, Justice Simo Mugeni. Biabakama note que le vote s'est généralement déroulé dans le calme dans tout le pays. La police a également déclaré qu'aucun cas majeur de violence n'a été rapporté. La campagne a été émaillée d'arrestations et d'émeutes avec des dizaines de morts. Le duel entre les deux principaux candidats fait figure de choc des générations. À 76 ans, le chef de l'État sortant, Yoweri Museveni, qui règne sur l'Ouganda depuis 1986, s'affiche en grand favori. Deux fois moins âgé que lui, Bobi Wine, 38 ans, un ancien chanteur devenu député, cristallise l'espoir d'alternance d'une partie de la jeunesse.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco, présentée par John Lydon.
Après un solde positif de 284,6 milliards de francs CFA en 2018, la balance des paiements extérieurs de la Côte d'Ivoire s'est soldée en 2019 par un excédent de 477,7 milliards de francs CFA. Cette performance, souligne Financial Afrique, a été réalisée dans un contexte marqué par une croissance économique qui a été moins forte qu'en 2018. Le produit intérieur brut du pays a enregistré en termes réels une progression de 6,2%. Il était de 6,9% en 2018. L'exploitant minier Teranga Gold Corporation a réalisé une production d'or de 404 460 onces pour l'année 2020. Basée à Toronto, au Canada, la société affiche un solde de trésorerie positif au 31 décembre 2020 de 75,1 millions de dollars. Ici aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties à la hausse après la trêve des fêtes de fin d'année. Et alors que l'activité économique est ralentie à cause du coronavirus, du 3 au 9 janvier, 965 000 personnes se sont inscrites au chômage contre 784 000 la semaine précédente, ce qui représente 181 000 inscriptions supplémentaires sur une semaine.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Direction Le Caire en Égypte pour parler du mondial masculin de handball qui s'y tient. L'Algérie a battu le Maroc 24-23 dans le derby maghrébin de ce tournoi. La Slovénie a dominé la Corée du Sud 51-29. La grosse performance est à mettre à l'actif de la Suisse. Invité de dernière minute au mondial en remplacement des États-Unis, massivement touché par le Covid-19, les Suisses ont surpris l'Autriche 28-25 le jour même de leur arrivée au Caire. L'équipe du demi-centre Andy Schmid, une référence au poste, a appris moins de 48 heures avant de jouer qu'elle participait au mondial en Égypte en tant que première nation sur la liste de remplaçants. Partie à l'aube du pays, elle est arrivée en début d'après-midi au Caire et a rejoint directement la salle de la ville du 6 octobre dans la banlieue ouest sans passer par l'hôtel. Demain s'ouvre le championnat d'Afrique des nations CHAN au Cameroun. Hier, le Rwanda a eu sa première séance d'entraînement au stade Bonamoussadi sur place au Cameroun. Avant de rejoindre le Cameroun justement, les Amavubi ont joué deux matchs amicaux face au Congo. Le premier s'est soldé par un match nul 2-2 et le deuxième une défaite 1-0. Logé dans le groupe C, le Rwanda fera face à l'Ouganda lundi pour son premier match. La compétition s'ouvre ce samedi avec le match inaugural entre le Cameroun et le Zimbabwe. En Espagne, Juan Laporta, Victor Font et Toni Freixa ont été officiellement déclarés candidats pour la présidence du FC Barcelone, a annoncé le club catalan. Les trois ont recueilli le nombre minimal de 2257 signatures de soutien validées. Émilie Rousseau, le quatrième pré-candidat qui avait présenté le nombre minimal de 2257 signatures de socios, entendez supporters actionnaires, nécessaire pour devenir candidat officiel, s'est retiré du processus électoral, précise le communiqué. La campagne électorale officielle débute ce vendredi et durera jusqu'à la date des élections pour l'instant fixée au 24 janvier. En athlétisme, l'Américaine Brianna McNeil, championne olympique du 100 mètres haies en 2016 à Rio, a été suspendue provisoirement pour entrave au processus antidopage, d'après l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Sacrée à Rio et médaillée d'or mondiale en 2013 à Moscou, McNeil avait déjà été suspendue durant un an entre 2017 et 2018 pour trois manquements à ses obligations de localisation antidopage et avait ainsi manqué les Mondiaux de Londres en 2017, à 7 mois des Jeux olympiques de Tokyo. Cette décision est un nouveau coup dur pour l'athlétisme américain, dont l'une des grandes stars, le sprinteur Christian Coleman, a été banni 2 ans pour 3 manquements à ses obligations de localisation anti-dopage.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon, toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Après la mise en accusation du président Donald Trump à la Chambre des représentants mercredi, c'est maintenant au Sénat d'organiser le procès qui se tiendra bien après son départ de la Maison-Blanche. Le président élu Joe Biden appelle le Congrès à travailler sur les priorités de la prochaine administration, malgré le procès qui va se dérouler durant sa présidence. Ou une analyse, Abdourahmane Dia, joint ici à Washington, le journaliste et ancien chef du service francophone de la VOA, Claude Porcella.
Oui, le procès va se tenir au Sénat. La question, c'est quand. Les démocrates, et notamment celui qui va être le prochain chef de la majorité au Sénat, le démocrate Chuck Schumer, souhaiterait que le procès se déroule dès maintenant, de façon que si éventuellement Donald Trump est condamné, reconnu coupable d'incitation à l'insurrection, il puisse être démis de ses fonctions avant la date officielle de son départ de la Maison-Blanche, c'est-à-dire mercredi prochain, le 20 janvier, lorsque Joe Biden prêtera serment. Mais le Sénat est toujours, jusqu'au 20 janvier, entre les mains de l'actuel leader de la majorité, Mitch McConnell. Et lui a dit non, le procès ne peut pas avoir lieu immédiatement. Donc l'idée de Mitch McConnell, c'est de retarder le procès afin qu'il ne commence qu'après la prestation de serment.
Le problème, selon certains des partisans du président, c'est que la procédure d'impeachment est un peu destinée à juger des présidents en fonction et pas en citoyen ordinaire. Parce qu'après le 20, le président Trump devient un citoyen ordinaire, si on peut le dire ainsi.
Oui, c'est vrai, et cela semble un peu futile de vouloir condamner un président ou le démettre de ses fonctions quand il les a déjà perdues. Mais Joe Biden est évidemment très pressé de mettre sur les rails son programme législatif. Et évidemment, si le procès commence, disons, le 22 ou le 25 janvier, toute l'attention des médias va être accaparée par le procès. Et donc, le programme législatif de Biden devra attendre un peu. Il a suggéré de couper la poire en deux, si je puis dire. Une partie de la journée serait consacrée au procès et l'autre au travail législatif. Mais évidemment, de toute façon, ça va. Il ne faut pas se leurrer. Le procès sera véritablement le sujet dont tout le monde parlera.
Justement, ce matin, Joe Biden, dans une déclaration, a dit qu'il espérait que le Sénat trouverait une façon de gérer ses responsabilités constitutionnelles, tout en conduisant les affaires urgentes de la nation.
Une bonne partie de la nation a été choquée par le discours du président le 6 janvier. Mais bon, ça va être oublié. Et puis, est-ce que le président sera-t-il vraiment condamné? Il serait le premier à être condamné. Il y a eu pas mal de procès en destitution. Aucun président n'a jamais été condamné.
Le journaliste et ancien chef du service francophone de la VOA, Claude Porcella, au micro d'Abdourahmane Dia. Les réactions sont nombreuses après la deuxième mise en accusation du président américain Donald Trump au Congrès, suite à l'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier. Notre correspondante à New York, Dili Diko, a recueilli la réaction de Bala Sissoko, entrepreneur américano-malien vivant aux États-Unis depuis 30 ans.
Je ne suis pas beaucoup surpris de ça, parce qu'on a vu ça venir depuis très longtemps. Mais moi, je pense surtout, en tant qu'Africain, plus précisément en tant que Malien, que c'est des leçons à prendre ici. Et l'histoire est en train de se créer, et comme c'est la démocratie que nous, les Africains, on veut imiter chez nous. Donc maintenant, ce n'est pas le moment de rester au pan et touche, mais c'est beaucoup d'observer et prendre des leçons et prendre des notes aussi. Et les États-Unis, comme bon, on peut dire que c'est le père de la démocratie maintenant, et c'est l'avocat de la démocratie mondiale surtout. Donc, ce qui s'est passé au Capitole l'autre jour Et ça nous a tous choqués, nous, en tant qu'Africains et Maliens surtout. Et puis, mais ça m'a beaucoup ouvert les yeux aussi de vraiment voir que nul est au-dessus de la loi, même le président de la République. Ça, c'est un. Et puis, de deux, et ça m'a beaucoup donné à réfléchir. Surtout l'Assemblée que nous, on a chez nous. L'Assemblée a des pouvoirs que beaucoup de gens ignorent chaque jour. C'est-à-dire l'Assemblée peut mettre leur pouvoir sur place pour faire des changements pour la bonne gouvernance. Même si le président part de l'autre côté, l'Assemblée, elle, a le droit vraiment d'exercer le pouvoir que le peuple les a élus pour défendre l'intérêt du peuple, l'intérêt de la gouvernance, de la bonne gouvernance du pays. Et puis maintenant, s'il doit mettre un président de côté, comme malheureusement on est en train de voir chez Donald Trump une deuxième fois, et ça, c'est vraiment un droit de l'Assemblée. Et on ne doit pas attendre toujours jusqu'à ce qu'il y ait des coups d'État de chez nous pour l'intervention des militaires pour faire ce changement-là. Voilà. Donc, la démocratie, c'est la vraie démocratie qu'on est en train vraiment, nous tous, de témoigner ici.
Bala Sissoko, entrepreneur américano-malien, joint à New York.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Eric Manirakiza a lui recueilli la réaction de Jean-Pierre Bongila, professeur de leadership au Collège Saint-Thomas dans le Minnesota.
Clair, c'est que c'est légitime. Les États-Unis auront été le berceau de la démocratie, surtout pour le monde moderne. Une incitation à l'insurrection, parlant de crime, c'est quand même quelque chose de fort. Et si les représentants du peuple ont réagi, ce n'est pas par besoin de simple réaction ou simplement parce qu'ils sont tous contre Trump, mais c'est d'abord pour protéger la démocratie dans le monde et la démocratie aux États-Unis. Mais ils partent à partir des évidences. Trump lui-même aura parlé à ses supporters et il leur a demandé d'aller au Capitole. Et c'est lui qui a dit que vous n'allez pas récupérer notre pays avec la faiblesse, mais il vous faudra vous battre pour récupérer le pays. C'est un message très clair. Ça, ce serait l'écroulement complet de la démocratie telle que nous la connaissons dans le monde. Le temps était venu pour que les parlementaires se décident de faire quelque chose et de prendre des mesures voulues. Ça montre au monde, d'ailleurs, que personne n'est au-dessus de la loi et qu'on ne va pas former des rois maintenant et on ne va pas obéir aux caprices de certaines personnes, de certains individus qui voudraient se maintenir comme empereur ou comme roi. La décision est bien arrivée, malheureusement. Ça n'ira peut-être pas jusqu'à voir Trump quitter le pouvoir avant l'inauguration de Biden. Mais pour moi, la décision est la bienvenue. Ce qui est fort et ce qui donne un ton sérieux au pays du monde, c'est que les institutions aux États-Unis fonctionnent comme il faut. Pour prendre la Cour suprême qui ne voulait pas aller vers ce que Trump leur demandait de faire, d'annuler les élections. Le vice-président lui-même a désobéi à Trump. Vous avez même les secrétaires d'État dans d'autres États comme la Géorgie qui aura désobéi aussi à Trump. Et ils ont maintenu la fermeté et l'indépendance de la Constitution. Donc ils jurent en fait leur obédience à la Constitution plutôt qu'à un individu. Et ces institutions-là auront sauver la démocratie aux États-Unis et au monde. Donc, j'arrive à la conclusion encore que les parlementaires ont fait quelque chose de bon. C'est la décision qu'il fallait prendre.
Les États-Unis, aujourd'hui, sont profondément divisés. Comment vous voyez l'avenir de ce pays?
Ça prendra suffisamment de temps aux États-Unis de se restabiliser, mais je crois que le pays est encore stable. Il fallait quand même une certaine crise pour que l'Américain arrive à réajuster ses plans vis-à-vis de la démocratie. Donc pour l'instant, nous savons qu'il y a Trump qui a encore suffisamment de fanatiques.
Mais il a appelé à l'unité mercredi. Depuis
Il a appelé à l'unité depuis son impeachment. Bon, je crois qu'il voudrait quand même sauver quelque part là sa peau ou sa réputation. Qu'on dise pas qu'il a été celui qui a divisé profondément les États-Unis, mais ça c'est trop tard.
Jean-Pierre Bongila, professeur de leadership au Collège Saint-Thomas dans le Minnesota.
VOA Afrique en direct de Washington.
Comme de nombreux Africains, les Guinéens suivent assidûment l'actualité américaine avec ses divers rebondissements, dont le dernier en date est la deuxième mise en accusation du président américain Donald Trump par le Congrès. Notre correspondant Zakaria Camara a recueilli des réactions à Conakry.
Ibrahima Sarran, universitaire, suit avec attention l'actualité politique américaine depuis l'invasion du Capitole. Il est de ceux qui pensent que la classe politique américaine s'est lassée du président Trump.
Si vous voyez aujourd'hui qu'au-delà des démocrates, que même les partisans de Trump, le parti républicain se joint aux démocrates pour demander la destitution du président, c'est pour dire que tous les Américains sont fatigués de l'attitude du président Trump.
La démocratie américaine doit inspirer les politiques en Afrique, estime à leur tour ces jeunes Guinéens qui semblent soutenir l'initiative des démocrates. Une initiative qui vise à destituer le président Trump.
S'il n'y a pas eu de réaction, en Afrique, un jour, on pouvait le faire. C'est pourquoi j'ai dit toujours dans mes discussions, si Donald Trump était un Africain, il allait être un pur dictateur.
Même s'il ne reste que deux jours, je pense que ça serait normal pour tout le monde entier de savoir que réellement que vraiment, les États-Unis prennent en sérieux la démocratie.
Nous tendons vers la construction d'un monde de paix et d'un monde orienté vers une démocratie stable. Et la référence, beaucoup de pays africains pensent que c'est les États-Unis. Et si Donald Trump veut mettre ses valeurs à terre, il est de la responsabilité des élus de lui démettre.
Si Donald Trump est destitué, les démocrates auraient fait un coup pour l'humilier, explique Alpha Omar.
Donc je pense que les démocrates veulent humilier Donald Trump. Et sur l'autre côté aussi, c'est une façon de l'empêcher aussi de bénéficier des avantages, c'est-à-dire après la Maison Blanche. Parce que j'apprends que s'il est destitué, ça veut dire qu'il ne bénéficiera plus des privilèges les anciens chefs d'État.
Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Hey there, hello. VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. La réalisation a été assurée par Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.